Bonjour. Ne pas relâcher le confinement après plus de 15 jours à rester chez eux et compte tenu du beau temps, de nombreux Français semblent s'impatienter, c'est ce que relèvent les applications de géolocalisation et certains préfets ou élus de région. Les soignants appellent à ne pas lever la garde. Qu'en est-il exactement de la situation? Faudra-t-il donner de nouvelles consignes de fermeté? Invité de ce journal, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. Avec lui, nous reviendrons également bien sûr sur l'attaque terroriste de Romans-sur-Isère, attaque au couteau qui a fait 2 morts et 5 blessés hier matin. L'agresseur et 2 de ses connaissances. Tous 3 réfugiés soudanais sont en garde à vue. Des documents manuscrits à connotation religieuse ont été trouvés à son domicile. L'auteur présumé des faits dit ne se souvenir de rien. Dans ce journal également, un début d'espoir en Italie où le nombre des contaminations baisse pour la première fois depuis le début de l'épidémie. 139 Français rapatriés de Bolivie après beaucoup de patience. Parmi eux, un ancien footballeur de 3e division qui nous racontera son séjour forcé. Et puis à 13h30, Denis Chessou nous emmène dans les embruns du Pas-de-Calais face à la mer pour CO2, mon amour, bien sûr.
France Inter.
Encore un peu de patience, le pic de l'épidémie se rapproche, si l'on en croit le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Raison de plus pour ne pas relâcher l'effort de confinement, vacances ou pas. Un relâchement que l'application Covimove croit avoir décelé dans les différents mouvements de population. Ce qui inquiète notamment le directeur de la PHP, Martin Hirsch, qui dit avoir vu lui aussi trop de monde dans les rues de Paris, trop de flâneurs, de promeneurs. Alors, vrai ou faux, Emmanuel Grabet est allé y voir de plus près.
Au milieu des joggeurs et des gens sortis faire une commission, quelques flâneurs mais pas d'attroupement. Simon, Julia et leurs 2 enfants ont coché la case promenade avec les personnes d'un même domicile.
Si on reste à distance et qu'on est raisonnable en comprenant bien les consignes, ça peut le faire.
Les enfants sortent tous les 2 jours en fait avec mon mari et puis moi comme je travaille à la maison, ça fait depuis le week-end dernier que je ne suis pas sortie donc je... Je prends l'air, je marche, je me dérouille un petit peu les jambes. Après, le fait qu'il fasse beau, c'est vrai que du coup, sur le canal, on se retrouve un petit peu comme le canal de d'habitude. Enfin.
Un soleil salvateur pour Françoise, c'est la première fois qu'elle met le nez dehors depuis sa sortie de quarantaine.
Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. On est sorti ce matin justement parce qu'on s'est dit que cet après-midi risquait d'y avoir davantage de monde. Mais les gens se tiennent à distance, enfin, ça ne me paraît pas être trop de monde, non.
Mais c'est vrai que des abus peuvent être constatés par endroits. Les fenêtres de Jean et son épouse donnent sur la place de la République.
Vous venez d'un 2-3 heures et vous allez voir. Il y en a des groupes de 5 et 6 personnes, bon, qui sont ensemble. Hein.
Pas mal de couples avec des petits-enfants. Vous savez comment c'est ? Ils commençaient à courir pour aller voir d'autres gosses. Ils se mélangeaient tous, quoi. C'est comme ça, on n'y peut rien.
La préfecture de police a déjà prévenu sur Twitter, le beau temps et le début des vacances ne sont pas une excuse valable lors des contrôles.
Emmanuel Grabet, plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'amendes sont mises chaque jour à Paris quand il fait beau. C'est ce qu'indique à l'instant le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, qui confirme que les habitants respectent moins les règles de confinement quand il y a du soleil. Alors quoi qu'il en soit de ces constatations, un éventuel relâchement du confinement a de quoi inquiéter la communauté des soignants qu'on applaudit pourtant tous les soirs aux fenêtres. Alors il le répète, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Agnès Ricaribon, présidente de la Société française de médecine d'urgence, ce matin sur France Info.
Les soignants sont très inquiets d'un relâchement parce qu'on voit à peine les effets positifs du confinement et qui sont encore insuffisants pour décharger les hôpitaux et être en situation, je dirais, de revenir à la normale. Pour le moment, on a encore trop de contaminations inter-personnes et on est encore en saturation dans les régions les plus touchées. Sur les lits de réanimation, on a presque triplé le nombre de lits de réanimation et malgré ça, on est encore à saturation et qui nécessite des transferts. Donc on est encore en saturation. Donc il est vraiment impératif de rester sur la même rigueur que le départ. C'est vraiment pas le moment de baisser la garde et de relâcher parce que sinon on risque la deuxième vague qui serait assez terrible pour nous.
Alors, vrai relâchement qui serait lié par exemple au beau temps ou bien simple impression. Le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, lui, en est persuadé depuis 2 jours. Les règles de confinement sont moins respectées. Il a d'ailleurs saisi à ce sujet le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Les forces de l'ordre disent par ailleurs avoir repéré à nouveau de nombreux promeneurs sur les plages de Nouvelle-Aquitaine. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine rappelle que ça reste interdit, que la promenade reste interdite. Invité de ce journal, Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Alors avez-vous vous-même des indications sur cet éventuel relâchement des Français pendant le confinement ?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que depuis 3 semaines que le confinement est en place, il est globalement très respecté, les règles sont appliquées. Nous avons déployé de nombreux contrôles, hein. On en est à plus de 7,7 millions de contrôles depuis que le confinement a débuté. Nous avions des craintes avec les départs en vacances et donc ces contrôles ont été accentués, renforcés. De nombreux préfets ont pris des arrêtés interdisant notamment en zone littorale les locations saisonnières, puisque en période de confinement, on ne part pas en vacances, on l'a rappelé avec beaucoup de fermeté, et il semble que cette consigne ait été largement respectée. Pour la seule journée d'hier, nous avons effectué un peu plus de 500 000 contrôles sur l'ensemble du territoire national.
Mais les verbalisations ont-elles augmenté?
Les verbalisations n'ont pas augmenté ces derniers jours, elles restent à un rythme très soutenu, beaucoup de contrôles, beaucoup de verbalisations et beaucoup de fermeté. Évidemment, et vous l'avez souligné, le risque avec le beau temps qui arrive, le risque c'est celui du relâchement. Et je veux rappeler le principe de manière très ferme, la règle c'est qu'on ne sort pas de ses choix, uniquement évidemment quand c'est nécessaire, il y a des 4 dérogations qui sont prévues, on sort seul le plus souvent possible, on ne sort pas 6 fois dans la journée pour faire ses courses, on sort uniquement quand c'est strictement nécessaire, il ne faut rien lâcher sur la règle de confinement, les soignants nous le rappellent également, il ne faut rien lâcher là-dessus, le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Évidemment, avec le beau temps qui arrive, nos contrôles vont être renforcés, ils vont l'être encore aujourd'hui, je m'en suis entretenu d'ailleurs encore ce matin avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône, avec la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, avec la préfecture de police de Paris, ces contrôles, ils vont être renforcés partout sur les lieux de promenade, avec beaucoup de fermeté, croyez bien qu'il n'y aura aucun relâchement des forces de l'ordre dans les contrôles qui sont mis en place.
Est-ce qu'on a évoqué trop tôt l'épisode à venir du déconfinement? Est-ce que ça n'a pas entraîné finalement ce relâchement que tout le monde constate?
Non, je vous le redis, le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre l'a dit avec beaucoup de fermeté, ce déconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Évidemment.
Mais il a été évoqué.
Oui, il a été évoqué parce qu'évidemment que les services travaillent, préparent ce déconfinement, mais il n'est pas à l'ordre du jour, l'échéance n'est pas fixée, ça n'est pas pour tout de suite. Le Premier ministre l'a dit fermement, et je veux à mon tour le rappeler très fermement à l'ensemble de vos auditeurs et à l'ensemble des personnes qui seraient tentées de contourner les règles. Nous serons extrêmement fermes.
Alors y a-t-il à votre connaissance des constatations différentes en fonction des régions ou des départements? Est-ce que les règles seraient plus difficiles à faire respecter dans les quartiers populaires? On l'a dit, mais là, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu plus de tolérance, par exemple?
Il n'y a de tolérance dans aucun territoire, partout, et y compris dans les quartiers populaires, comme vous les nommez, où les forces de l'ordre effectuent des contrôles très régulièrement, et où d'ailleurs le constat d'infraction est le même que sur le reste du territoire national. Il n'y a pas de zone de non-droit, si j'ose dire, en matière de respect du confinement.
Mais convenez, Laurent Nunez, qu'il est plus facile de rester confiné quand on a un jardin, par exemple, que dans un appartement?
Évidemment.
Et qu'on est nombreux dans cet appartement.
Évidemment qu'il est plus facile de rester confiné dans certaines circonstances et pas dans d'autres, mais il faut néanmoins respecter ces règles de confinement parce que c'est important, c'est un enjeu de sécurité sanitaire pour notre pays et il faut éviter la propagation du virus, c'est un impératif majeur et je le redis très fermement, les contrôles ils ont lieu partout sur le territoire national.
Donc vous contestez, vous, ce sentiment de relâchement là qu'on peut avoir tous?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un risque forcément avec le beau temps survenant, mais les forces de l'ordre sont là et répondent à ce risque par des contrôles renforcés et donc il n'y aura aucun relâchement des contrôles. Voilà, je veux le dire avec beaucoup de fermeté et je m'en suis encore entretenu avec de nombreux préfets ce matin encore au téléphone.
Mais pas question de renforcer encore les règles du confinement.
Nous renforçons les contrôles. Les règles sont connues des Français. Il y a des 4 dérogations. Il faut produire une attestation. Il faut être dans la bonne configuration. Et encore une fois, je veux redire que ces règles seront appliquées très fermement et nous ne tolérerons aucun contournement.
Et qu'en saura-t-on précisément la date de sortie, disons?
Écoutez, pour l'instant, tant que l'épidémie se propage, tant qu'il y a des personnes qui entrent en réanimation, et vous savez que c'est le cas, le confinement reste évidemment à l'ordre du jour.
Restez avec nous quelques instants, Laurent Nunez, pour la deuxième actualité de ce dimanche matin à Romans-sur-Isère, au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et 5 blessés. L'enquête évidemment progresse. Une 3e personne a été placée en garde à vue, une connaissance de l'agresseur, également de nationalité soudanaise, et qui habite le même immeuble, Corinne Audouin.
Il s'agit d'un ressortissant soudanais âgé de 19 ans. C'est une connaissance de l'assaillant. Au total, trois hommes sont donc en garde à vue. Ce jeune homme, l'auteur de l'attaque, âgé de 33 ans, et un homme de 28 ans, également soudanais, qu'il hébergeait occasionnellement. De sources judiciaires, on indique que l'assaillant a été examiné par un médecin. Son état de santé a été jugé compatible avec une garde à vue. Il n'est pas délirant et devrait être examiné par un psychiatre aujourd'hui. L'homme sera transféré dans la journée à Levallois pour être interrogé par les enquêteurs de la DGSI. Inconnu des services de police, il avait obtenu le statut de réfugié en 2017 et travaillait dans une maroquinerie. Les enquêteurs poursuivent par ailleurs leurs investigations, notamment l'exploitation de plusieurs téléphones. Des documents manuscrits ont été retrouvés chez l'auteur de l'attaque, faisant référence au regret de vivre dans un pays de mécréants. En revanche, aucune vidéo d'allégeance ou de revendication n'a été retrouvée, pas plus que des documents faisant référence à l'État islamique.
En rappelant que le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat, au pluriel, en relation avec une entreprise terroriste. Alors que dire plus précisément de l'agresseur présumé, un homme de 33 ans né au Soudan qui semblait parfaitement intégré? C'est en tout cas ce que raconte Aurélien Ferlet, maire et conseiller régional de Morat-Saint-Valois, dans la Drôme, qu'il avait rencontré et soutenu dans le cadre de l'élaboration d'un contrat de bail.
Il a été amené à travailler pour une entreprise locale, une maroquinerie, et son employeur cherchait tout simplement un logement pour l'héberger en proximité de son lieu de travail. Donc j'ai été amené à le rencontrer dans le cadre de l'élaboration d'un contrat de bail, tout simplement avec un colocataire. Il était accompagné dans le cadre d'un dispositif de formation. Il était suivi par des services de l'État, par le Secours catholique, de Romans-sur-Isère, et rien n'a jamais pu laisser transparaître qu'il pourrait agir aujourd'hui comme il l'a fait. Moi, j'ai vraiment le souvenir de quelqu'un qui est resté poli. J'ai échangé avec son employeur, j'ai échangé avec ses voisins qui sont aussi complètement consternés et qui n'imaginaient pas du tout cette situation. Je suis en plus le maire d'une commune qui, par le passé, avait accueilli une famille de réfugiés syriennes il y a peu de temps. Dans l'histoire de mon village, on a toujours eu une tradition d'accueil. On a eu des familles yougoslaves, des enfants du Liban. Et tout s'est toujours très très bien passé. Donc je souhaite quand même que l'horreur n'efface pas complètement l'histoire de la solidarité de notre village et n'autorise pas par facilité l'amalgame. Parce que je crois qu'il n'y a pas non plus de monstre et heureusement caché derrière chaque réfugié d'hier ou de demain. Il ne faudra pas l'oublier.
Voilà, allusion claire aux tentatives de récupération venues notamment du Rassemblement National qui a dénoncé dès hier la politique d'immigration et le laxisme du gouvernement. Laurent Nunez, que vous inspirent ces mises en cause du gouvernement ?
D'abord, vous dire que malgré le confinement, évidemment que nos services spécialisés de lutte antiterroriste, qu'il s'agisse des services de renseignement d'abord, ensuite de police judiciaire, sont totalement mobilisés. La lutte antiterroriste, ça reste une priorité extrêmement forte. L'affaire de Romans vient nous rappeler que la menace terroriste endogène, c'est-à-dire qui provient d'individus qui sont présents sur le territoire national, elle est toujours présente, elle est toujours là, et l'affaire de Romans vient nous le rappeler évidemment de manière dramatique, mais sachez que les services sont totalement mobilisés pour d'abord prévenir cette menace et ensuite lutter contre cette menace quand elle est avérée. C'est ce qui a été fait hier à Romans, donc dans un contexte dramatique où les forces de l'ordre sont néanmoins intervenues très rapidement. Les investigations sont maintenant en cours sous l'autorité du procureur national antiterroriste. Votre reportage l'a rappelé, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été trouvés. Le procureur l'a rappelé, des documents à caractère religieux notamment, la téléphonie qui va être exploitée pour essayer de comprendre ce qu'ont été réellement les motivations de l'auteur. Voilà, il faut laisser maintenant les enquêteurs faire leur travail. Voilà. Mais voilà, je veux rappeler que nous sommes, le gouvernement est totalement mobilisé sur la lutte antiterroriste depuis maintenant 2017, avec un renforcement des moyens, une collaboration renforcée des services de renseignement notamment. Voilà, un travail énorme a été fait. Continuera évidemment d'être fait.
Et il n'y a pas eu de relâchement, hein, pour le coup, de la vigilance policière.
Il n'y a aucun relâchement de la vigilance de policière. Vous savez, depuis la fin de l'année 2013, ce sont plus de 60 attentats qui ont été déjoués dans ce pays. Évidemment, nous allons continuer cette action avec beaucoup de fermeté. Et encore une fois, j'insiste, malgré le confinement, nous avons organisé les services qui sont toujours très présents sur ces sujets. Donc, encore une fois, services de renseignement, services de police judiciaire. Tout le monde est mobilisé dans la lutte antiterroriste depuis 2 ans et demi maintenant, bientôt 3 ans, avec une coopération renforcée, comme comme jamais ça n'avait été mis en œuvre avant.
Et y a-t-il eu, à votre connaissance, des menaces particulières de Daesh liées à cette période très particulière, justement ?
Vous savez, la menace de Daesh, elle est permanente, elle a évolué. On est passé d'une période où il y avait des attaques projetées, des personnes qui venaient de l'extérieur du territoire national, et à une menace qui est plus endogène maintenant, avec des individus qui sont présents, qui peuvent céder à la propagande de Daesh. Nous verrons si c'était le cas dans l'affaire de Roman hier. Mais voilà, cette menace, elle est là, elle est toujours présente, et c'est pour cela qu'avec Christophe Castaner, nous demandons à nos services une mobilisation qui soit entière, complète et très déterminée à lutter contre le terrorisme.
Mais à votre connaissance, à l'heure qu'il est, l'agresseur de Roman aurait agi seul?
À notre connaissance, oui, il aurait agi seul. Vous savez, il y a les investigations sont en cours. Il faut toujours être prudent quand on s'exprime sur ces sujets. Sa téléphonie est en cours d'exploitation. Cela a été rappelé. Elle donnera peut-être des éléments. Les éléments qui ont été prélevés en perquisition seront exploités. On en saura plus forcément dans les jours qui viennent. Et c'est le procureur national antiterroriste qui aura l'occasion de s'exprimer là-dessus. Moi, ce que je veux rappeler à vos auditeurs, c'est que nous sommes déterminés à lutter contre le terrorisme et surtout très mobilisés sur ce sujet.
Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur en direct de la place Beauvau. Merci à vous, Laurent Nunez, et merci à Georges Thau pour les moyens techniques. À Romans-sur-Isère, justement, dans la commune, sous le choc, évidemment, après la violence d'une telle attaque, l'émotion est d'autant plus forte ce matin qu'elle ne peut être partagée dans les circonstances présentes. Difficile de rendre collectivement hommage aux victimes. Malgré tout, chacun fait bloc comme il peut, Florence Gautreau.
Oui, ce matin, la maire de Romans est allée à la rencontre des commerçants sous le choc. L'attaque d'hier s'est déroulée dans un bureau de tabac, dans une boucherie et devant une supérette. Romans aura du mal à se relever de cette attaque, assure Marie-Hélène Thauraval.
C'est une grande tristesse. Aujourd'hui, c'est le lendemain et je peux vous dire que le jour d'après ne sera plus jamais comme le jour d'avant. Vient le temps de la prise en pleine face, de la détresse, de la gratuité aussi de cet acte et puis de l'aspect dramatique pour toute une population.
D'autant que les hommages, les rassemblement ou même aller voir ses proches ou être présent aux obsèques est impossible avec le confinement. C'est donc beaucoup sur les réseaux sociaux que ça se passe, surtout pour une des deux victimes, Julien Vincent. Il tenait avec son père le café-théâtre La Charrette, une véritable institution à Romans. Le magicien drômois Dany Larry a posté sur Facebook une photo prise il y a une quarantaine d'années de lui avec Julien sur ses genoux.
Moi, chaque fois que j'allais à La Charrette, juste avant le confinement, j'y étais, j'ai mangé avec lui. C'est un gars qui... C'était un vrai gentil. Il fait partie de ma famille, toute la famille. C'est incroyable, incroyable.
La ville réfléchit à une façon de rendre hommage aux victimes sans mettre la population en danger, alors que sévit l'épidémie de coronavirus.
Florence Gautreau, en rappelant que le principal suspect de cette attaque au couteau sera transféré dans la journée à la sous-direction antiterroriste de Levallois-Perret.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Un nouvel Airbus rempli de masques venu de Chine, il est arrivé ce matin à Toulouse. 4 millions de masques à destination des 4 pays fondateurs d'Airbus, dont l'Allemagne, où l'avion a fait étape. C'est la troisième opération depuis la fin mars. Des masques et du matériel médical qui seront remis aux autorités de santé pour les personnels soignants en priorité. Pour le grand public, on le sait, le nombre des masques ne sera jamais suffisant malgré les commandes passées en Chine, malgré la relance de la production française. Le directeur général de la santé a recommandé pour ceux qui le souhaitent vraiment l'usage de masques alternatifs et pourquoi pas des masques fabriqués maison, comme ceux de Mireille par exemple, une couturière d'Argenteuil qui fait chauffer sa machine à coudre depuis le début de l'épidémie. Et pas question pour elle bien sûr de ralentir la cadence, Faustine Calmel.
Quand Mireille s'est installée devant sa machine à coudre, c'était d'abord pour aider sa fille, travailleuse dans un accueil de jour à l'hôpital.
Elle et ses infirmières n'avaient pas droit encore aux masques spéciaux. Donc elle m'a fait passer le tuto du CHU de Grenoble.
Une source sûre, validée par des soignants, et peu importe si à l'époque le discours officiel martèle que ces masques ne sont pas utiles, Mireille en distribue de plus en plus.
J'ai continué, oui bien sûr, puisqu'il y avait une demande des secrétaires d'un laboratoire d'analyse, puisque seulement les infirmières y avaient droit mais pas les secrétaires. J'en ai donné à des commerçants, à des amis, enfin à plusieurs personnes comme ça.
Tout le monde se retrouve avec des masques décorés de schtroumpfs ou de petites abeilles, puisque Mireille pioche dans les restes des tissus utilisés pour les coussins de ses petits-enfants. Et si aujourd'hui les autorités sanitaires estiment qu'il faut porter ces masques, alors...
J'étais un précurseur. Non, je plaisante, mais oui, je vais continuer. Je suppose que ça n'est pas efficace comme les... les vrais masques des soignants. Mais moi, je suis pour le mieux que rien.
Mireille retourne donc à sa machine à coudre. Elle a encore en stock plusieurs mètres de chute de tissu.
Faustine Calmel, porter des masques ou pas, nous n'avons en tout cas jamais eu autant de patients en réanimation, disait hier soir le directeur général de la Santé. 6800 personnes. Pour soulager les hôpitaux du Grand Est et d'Île-de-France, les évacuations sanitaires donc se poursuivent ce week-end par hélicoptère ou TGV. 550 patients auront été ce soir transférés vers l'ouest ou le sud-ouest. En Outre-mer, la Guyane passe au stade 2 de l'épidémie, comme avant elle Mayotte et La Réunion. La Martinique et la Guadeloupe sont au stade 3. 66 cas ont été testés positifs en Guyane où aucun décès n'est à déplorer pour l'instant. Par ailleurs, la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon confirme un premier cas positif dans l'archipel. Au chapitre économique, 20 milliards d'euros de prêts ont déjà été demandés par plus de 100 000 entreprises en 8 jours. Précision apportée ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans le JDD, en rappelant que l'État garantira jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts bancaires, soit l'équivalent de 15% du produit intérieur brut. Par ailleurs, 450 000 petites entreprises ont déjà sollicité le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, qui continuera de soutenir massivement l'économie sans augmentation des impôts. Isabelle Chailloux.
Fini le temps où le redressement des finances publiques était l'alpha et l'oméga de la politique économique. À Bercy, Bruno Le Maire pilote désormais un plan à plus de 45 milliards d'euros pour soutenir l'activité en France, dont 11 milliards pour le seul chômage technique qui permet à 5 millions de salariés de continuer à toucher plus de 80% de leur salaire. Pour les entreprises, l'État garantit d'ores et déjà 20 milliards de prêts. L'objectif, c'est de mettre l'économie sous cloche, éviter un effondrement, souligne Bruno Le Maire, afin de rendre possible un redémarrage de l'économie après la crise, en limitant d'ici là la casse sociale comme les faillites. Pour financer cette intervention massive de l'État, Bruno Le Maire, autrefois défenseur de la rigueur budgétaire, en appelle désormais à l'endettement et promet qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. La seule feuille de route à suivre, assure le ministre de l'économie, c'est celle de la relance, la plus puissante et la plus rapide possible.
À l'étranger, un début d'espoir en Italie. Après plus d'un mois d'augmentation quotidienne, le nombre des patients hospitaliers en soins intensifs a pour la première fois baissé, repassant sous la barre des 4000. 680 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Le bilan reste effrayant, mais il est aussi en baisse. Nathalie Charbonnier, vous êtes à Milan, où les Italiens, malgré les premiers signes encourageants, ne sont pas encore complètement rassurés, évidemment.
Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, on peut pas dire le contraire, mais vous savez, ici, il règne vraiment une atmosphère de peur dans les rues, les gens sont extrêmement inquiets. Alors, entendre que le nombre de malades diminue, l'information est effectivement bien accueillie, mais elle est surtout accueillie avec prudence, une très grande prudence. Andrea, masque sur le visage et distance de sécurité respectée d'au moins un mètre, ne veut pas crier victoire trop tôt.
Bon, c'est sûrement une bonne nouvelle, mais avec tous les chiffres qu'on entend, on ne comprend pas bien. Et on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment le basculement vers la fin de l'épidémie. Moi, je suis très très prudent avec les chiffres qu'on nous donne.
Et ce sentiment est vraiment partagé par un grand nombre de Milanais. En tout cas, pour l'instant, les Italiens ne retirent pas leur masque. Ils restent enfermés et regardent en direction du 12 avril, date à laquelle il est prévu de sortir du confinement. Une date symbolique qui ne signifie en rien la fin de la crise, comme l'explique ce Milanais.
Ce n'est pas la fin de la crise.
Ce n'est pas la fin de la crise et de la pandémie.
Et ce n'est pas la fin de la crise, mais surtout de ses effets. Je crois que la pandémie et ses conséquences, on va les ressortir jusqu'à la fin de l'année.
Enfin, dernière précision, Yves, le nombre de malades est en baisse, vous l'avez dit. Et le nombre de morts aussi, moins 10% depuis ce week-end.
Nathanaël Charbonnier a noté une bonne nouvelle également, si l'on peut dire, en Espagne, c'est le troisième jour consécutif de baisse, mais les chiffres restent élevés. 674 morts au cours des dernières 24 heures, c'est le bilan le moins élevé depuis 10 jours. En revanche, le nombre de cas confirmés de Covid-19 continue de progresser. À l'étranger toujours, 150 000 Français s'étaient retrouvés bloqués au début de l'épidémie. Ils sont encore 3 à 4 000, moins 139. 139 Français rapatriés de Bolivie après beaucoup de patience. Parmi d'autres Européens, dont l'avion a fait étape à Madrid, les passagers ont évidemment fait l'objet de contrôles sanitaires stricts. Parmi eux, un footballeur expansionnaire de 3e division et qui était parti tenter sa chance en Bolivie, Julien Benaïm Casanova, qui vous a raconté son périple, Guillaume Batin.
Parti tenter sa chance à Oruro, au sud de La Paz, Julien Benaïm Casanova n'a jamais porté le maillot bleu et blanc du Deportivo San José, club trop endetté pour payer le salaire des nouvelles recrues. Mais au moment du départ, le pays est placé en quarantaine.
Moi, je voulais pas rester bloqué dans ma ville, donc je suis parti d'Oruro pour aller à l'aéroport de La Paz, pour très rapidement rejoindre ma petite amie qui est en Argentine. Et malheureusement, je suis arrivé à 10h du matin à l'aéroport et à minuit, ils ont fermé les frontières en Argentine. Il n'y avait que les Argentins qui pouvaient rentrer chez eux. Donc, je me suis retrouvé bloqué à La Paz.
Julien passe près d'un mois à La Paz, bloqué dans une chambre d'hôtel.
C'est galère parce que j'étais seul, c'est très dur et le temps il passe très, très, très lentement. Après, j'étais dans un pays et dans une ville qui était très, très pauvre. Donc forcément, en plus de la situation où je suis, j'ai appris à positiver. De ce que j'ai vu à mon quotidien, ce que je vis aujourd'hui pour moi, je me dis que c'est rien. Je me dis que c'est la vie, que c'est pas grave. Peut-être que je fais un long voyage, peut-être que j'ai un peu l'appréhension d'attraper le virus. Donc j'espère rentrer en bonne santé. Même si la situation est compliquée, je positive énormément.
Julien Benaïm Casanova a enfin pu quitter l'Amérique du Sud. Il n'a maintenant qu'une hâte, retrouver sa famille et poursuivre le confinement chez lui à Bastia.
Guillaume Batin. Un dernier conseil santé pour terminer sur ce sujet. Les yeux qui pleurent, la gorge qui pique, le nez bouché. Attention, ce n'est pas forcément le Covid-19 en ce début de printemps. Ce n'est peut-être qu'un rhume des foins. Enfin que plus d'un Français sur 10 souffre d'allergie au pollen et d'asthme. Et pour eux, il est plus que jamais recommandé de bien prendre leur traitement, Sandy Dauphin.
Les personnes allergiques n'ont pas plus de risque d'attraper le Covid-19 à condition de bien prendre leur traitement, précise le docteur Isabelle Bossé, présidente du syndicat français des allergologues, car leurs muqueuses nasales sont un peu plus fragiles et inflammatoires que les autres.
À partir du moment où la rhinite est bien contrôlée avec les médicaments habituels, il n'y a aucun risque particulier pour les allergiques. Il faut prendre son antihistaminique tous les jours, il faut mettre éventuellement les pulvérisations nasales même de corticoïdes que leur a prescrit leur allergologue. Et bien entendu, les asthmatiques ne doivent absolument pas arrêter leur traitement de fond.
Éternuement, gorge qui pique, sifflement, comment faire la différence entre les symptômes des allergies et ceux du Covid-19?
Il y a une différence fondamentale, c'est que l'allergie ne donne pas de fièvre. Par ailleurs, les phénomènes allergiques s'accompagnent très souvent de démangeaisons. Et ça, dans le Covid, il n'y a absolument pas ces symptômes-là. Quant aux asthmatiques, alors effectivement, là, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Les symptômes du Covid sont plutôt une toux qu'on n'arrive pas à arrêter, une gêne respiratoire globale. La différenciation peut se faire là-dessus. Les sifflements à l'expiration, c'est l'asthme. Le reste, ça peut être le Covid. Je dis bien ça peut, ça n'est pas forcément, mais ça peut.
Les asthmatiques sévères doivent tout particulièrement se surveiller. Ils sont considérés comme personnes à risque face au Covid-19.
La référence en la matière, c'est l'association Asthme et Allergie qui dispose d'un numéro vert, le 0800 19 20 21, 0800 19 20 21. Toutes les coordonnées sont à retrouver bien sûr sur le site franceinter.fr. Et puis dans ce contexte d'épidémie, allez, une toute dernière précision encore. On peut entendre ces jours-ci sur notre antenne, entre autres, des messages de l'UNESCO pour nous alerter contre les fausses nouvelles qui pullulent, avec plusieurs millions d'enfants, d'adolescents et d'étudiants qui sont hors les murs de classe à travers le monde. L'UNESCO a lancé une campagne radiophonique pour lutter contre toutes les formes de manipulation de l'information. C'est d'ailleurs un de ces combats permanents, Jacqueline Pétrose.
Pour l'UNESCO, les informations erronées qui circulent à toute vitesse sur les réseaux sociaux sont tout aussi dangereuses que le virus. Elles brouillent les messages de précaution, entachent les décisions de suspicion en tout genre et font se relâcher les vigilances. L'UNESCO estime donc de son devoir d'alerter. Moïse Chakchouk, sous-directeur général chargé de la communication et de l'information.
Pendant le confinement, vu que les écoles sont fermées, qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le net, donc c'est dans notre cadre donc d'éduquer, de sensibiliser aussi bien les jeunes et les enfants, mais aussi les parents vis-à-vis de ces risques d'informations erronées.
La radio est le vecteur idéal et universel qui a déjà fait ses preuves. Moïse Chakchouk.
Quand il y a eu le virus Ebola, les différentes campagnes que nous avons réalisées, par exemple en Afrique, ça a eu un succès important et on a vu qu'on a freiné les informations erronées, mais aussi on essaye de montrer les informations qui sont nécessaires à être inculquées aux jeunes et aux enfants, mais aussi aux citoyens, la façon avec laquelle on se protège par rapport à ce virus.
Alors que la pandémie met le monde à l'arrêt, le message de l'UNESCO va lui faire le tour du monde puisque la majorité des radios internationales va le diffuser.
Jacqueline Pétrose, le temps maintenant, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Des conditions anticycloniques largement présentes et se manifestant aujourd'hui par du bleu soleil sur la plupart des régions, avec un bémol pour les zones proches de l'océan, où le voile nuageux aura tendance à s'épaissir au fil de la journée, avec un vent modéré près de la Manche et sur la façade atlantique, et un autant plus turbulent sur la montagne noire. Les températures en hausse cet après-midi dans la moitié nord du pays, stationnaires au sud, vont généralement indiquer entre 20 et 22 degrés, jusqu'à 24 sur le Pays basque. Demain, un intermède pluvieux va survoler la moitié ouest, atteignant les régions du nord, du bassin parisien, du centre et le Midi-Pyrénées en seconde partie de journée, s'accompagnant d'un très léger déclin des températures maximales, tandis que plus à l'est, soleil et températures toujours confortables pour la saison vont persister.